Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Nous sommes toujours à la Basoche, à Tours. Maintenant, je vais poser quelques questions à Delphine Laugier, qui est hôte de pension de famille. Delphine, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir ici, dans ce bel endroit, avec cette belle famille.
Merci.
Pension de famille. Donc, toi, tu es hôte. Et donc, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie, être hôte de pension de famille ?
Alors, être hôte, ça signifie beaucoup de choses. Nos fiches de poste sont bien remplies parce qu'on fait beaucoup de choses. Pour résumer, alors là, je reprends les mots, c'est Delphine Picard que j'avais entendu dire ça. Mmh. On fait tout du moment que c'est ponctuel. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient habiter en pension de famille, c'est quelqu'un qui va relever du droit commun. Donc, s'il y a un besoin, il y aura une orientation faite vers un service social de secteur, vers le soin, vers des services mandataires, etc., selon le besoin. Donc ça, ce n'est pas notre métier, ce n'est pas des choses qu'on fait. Pour autant, comme il peut y avoir des délais dans tous ces services, on peut effectivement être amené à faire des choses ponctuellement. Donc ça peut aller de remplir un dossier de surendettement, aider à une démarche administrative, à aider la personne techniquement et physiquement à faire un coup de ménage dans son appartement. Mais c'est des choses qui sont ponctuelles. Si le besoin va perdurer, on va orienter vers un service de droit commun et compétent. En gros, on est des professionnels du quotidien. Il y a une présence de 9h le matin à 21h. Entre ces moments, il y a une astreinte téléphonique également. Donc on est surtout beaucoup là pour rassurer, écouter, on fait une veille sociale, on connaît bien les habitants puisqu'on les voit tous les jours finalement, c'est comme dans une famille. Voilà.
D'accord. Et donc toi, tu travailles à la Basoche depuis combien de temps ?
Alors ça fait 6 ans que je travaille à la Basoche.
Mais tu connais la Basoche depuis le début.
Alors je connais la Basoche depuis le début puisque j'ai fait partie des premières stagiaires quand j'étais en formation, donc à la Basoche. Ça a été pour moi une découverte parce que la Basoche, c'était la première pension de famille. Et je connaissais pas du tout ces modes de travail. Ça m'a beaucoup plu. Et voilà donc le résultat. Du coup, je suis restée un peu dans le paysage puisque j'ai pu faire à l'époque les remplacements de mes collègues quand ils étaient en vacances. Et puis, voilà, les pensions de famille s'étant développées, il y a eu un poste qui m'a été proposé que j'ai accepté immédiatement. Et voilà.
Donc l'expérience t'avait plu.
Voilà.
Et quel parcours tu avais eu avant, si c'est pas indiscret ?
Alors,
qu'est-ce qui t'a amené jusque-là et qui t'a fait t'intéresser à ce sujet ?
Alors, le domaine du logement, je l'ai un peu découvert aussi en reprenant mes études, parce que quand on est dans autre chose, on se pose pas forcément des questions. Et voilà, j'ai mesuré l'impact du logement et que pour autant avoir un logement, ça résout pas tout non plus. Parfois, il faut un accompagnement derrière. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Mais au début de ma carrière, j'ai travaillé dans un dispositif d'accueil de nuit d'urgence pour des SDF. J'ai travaillé ensuite au comité d'aide aux détenus, où j'étais coordinatrice. Comité d'aide aux détenus, oui. Et ici.
Donc tu es habituée à travailler avec des personnes qui peuvent avoir eu des parcours de vie
Oui, c'est vrai que de mon parcours professionnel, effectivement, je travaillais effectivement avec des publics en grande difficulté.
Et donc, qui sont les habitants ici ? Comment arrivent-ils ici ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils sont tous des Tourangelles et Tourangeaux ? Est-ce que ça vient de tous horizons ? Est-ce que les parcours ont des similarités ? Comment on peut qualifier cette famille ?
Alors, cette famille, du coup, les habitants, leur profil doit répondre à ce qui est posé dans la circulaire. C'est-à-dire des personnes dont la difficulté empêche d'accéder à un logement traditionnel à échéance prévisible. Donc, c'est quelque chose de très vaste.
Oui.
Hein, on va pas cibler spécialement une problématique des femmes. Donc c'est vaste. Donc, il y a des profils variés. En tout cas, tous ont en commun une incapacité à vivre seule pour le moment. Mais il n'y a pas non plus d'objectif à réussir à vivre seule, puisqu'on fait bien du logement. Donc, une personne peut vivre toute sa vie en pension de famille. Voilà. Le logement traditionnel n'est pas un objectif. Et c'est pour ça aussi que nous, on est revenu au terme de pension de famille, qu'on a préféré au terme de maison relais, parce que le terme de maison relais implique un relais, alors qu'il n'y a pas forcément de relais à passer. L'objectif est de loger.
C'est pas temporaire.
C'est pas du tout du temporaire. Ça peut l'être. Il y a des personnes pour qui, au bout d'un moment, effectivement, il y a une envie, une volonté de partir, de vivre seule, mais c'est pas du tout une obligation. Donc les profils sont variés. Il y a effectivement ce point commun d'avoir besoin de vie collective, de contact avec les autres, de pas être seule, tout simplement. Après, voilà, sur les parcours, c'est varié. Donc, on a effectivement des personnes qui sortent de rue, qui ont eu un parcours en CHRS avant. On a des personnes qui vivaient en logement seules, mais pour qui c'était compliqué. Mmh. On a des personnes qui ont des longs parcours institutionnels, hein, d'hospitalisation. Donc, ça peut être par cette voie aussi. Je pense avoir fait à peu près le tour.
Il y a à peu près autant d'hommes que de femmes.
Il y a exactement autant d'hommes que de femmes à la Basoche. On a la chance d'avoir la parité exacte. On essaye d'être vigilants.
C'est un choix ou c'est un hasard ?
Alors, il faudra demander à mes collègues qui étaient là au tout début. Alors oui, on veut absolument garder une mixité. Effectivement, il pourrait y avoir un risque parce qu'il y a quand même moins de demandes de femmes, c'est un fait. Donc, il pourrait y avoir un risque à un moment d'avoir plus d'hommes que de femmes. Enfin bon, on n'est pas... qu'on ait la parité exacte, c'est peut-être un hasard, on n'est pas pour non plus. Mais en fait, on ne voudrait pas qu'une femme qui se retrouve toute seule, ça n'aurait plus de sens non plus dans la vie de groupe. Oui. Et si avec des hommes, ça ne serait plus la pension de famille telle que nous, on l'a conçue en fait. Parce qu'un projet social peut décider que c'est une pension de famille que pour les hommes ou que pour les femmes. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. Donc nous, on a moitié-moitié. Donc effectivement, quand un appartement se libère, on essaye de demander des candidatures hommes si c'était un homme et femmes si c'était une femme.
Et au niveau de l'âge, est-ce qu'il y a c'est tous âges confondus ?
Alors oui, c'est y a pas d'âge limite, il faut être majeur. Après, on n'a pas de personnes de jeunes majeurs. Hein, c'est arrivé que des personnes visitent, mais on n'en a pas encore logé. Ça peut aussi questionner, après, il faut voir aussi selon les parcours. Arriver en pension de famille à 18 ans avec des personnes qui sont plus âgées, qui ont des parcours compliqué et voilà, ça questionne un petit peu sur ce qu'on pourrait proposer dans ce contexte. Enfin voilà, en tout cas, on ne s'est pas arrivé. Nous, la habitante la plus jeune a 32 ans et le plus âgé 63.
Comment est-ce qu'ils ou elles arrivent ici ? Est-ce que ce sont des personnes qui sont orientées par des services ou par d'autres institutions, ou est-ce que les personnes peuvent venir d'elles-mêmes ? Comment ça se passe ?
Alors, il y a tous les cas de figure possibles. Effectivement, quelqu'un qui aurait eu la chance d'entendre parler d'une pension de famille qui peut se renseigner peut venir de lui-même demander une visite et visiter, faire la démarche lui-même de faire la demande. Mais ensuite, ça peut aussi être des orientations par différentes institutions. Ça peut être des CHRS, ce que je citais tout à l'heure, quoi, des hôpitaux, des travailleurs sociaux de secteur.
Et les personnes qui arrivent ici, quelles sont leurs attentes ?
Ça fera plutôt le demander à un habitant, du coup. C'est vrai que moi, ce que j'entends beaucoup quand je fais des visites...
Ce que tu ressens,
Les gens disent, moi j'aime bien être tranquille chez moi, mais je veux pouvoir voir du monde aussi si j'ai besoin. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup quand les personnes visitent.
Ne pas être isolé.
Ne pas être isolé, mais pouvoir quand même être tranquille chez soi.
Oui. Voilà. Avoir son intimité,
mais
pas y être trop contraint, quoi.
Voilà, sur l'intimité, les habitants sont libres d'aller et venir, ils n'ont pas besoin de nous dire où ils vont, quand ils rentrent, etc. Il y a des interphones sur la porte, donc s'ils peuvent recevoir des visites, la personne sonne directement chez eux, ça passe pas, on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc ça, c'est encore des choses qui collent au logement, comme n'importe qui. Ça, pour des personnes, notamment, qui ont un long parcours institutionnel avec des foyers, des CHRS, c'est des choses qu'ils ont envie de retrouver, parce que c'est de l'ordre de la normalité, et ça peut se perdre dans certaines institutions, mais c'est normal, parce que c'est un autre fonctionnement. Et du coup, voilà, il y a ce côté... J'ai mon appartement comme tout le monde, où je peux recevoir, où je peux faire ce que je veux. On ne va pas venir rentrer et me... Et voilà. Mais par contre, si Si être tout seul à un moment c'est trop dur, trop compliqué, je descends et je vois du monde.
Oui, parce que là, donc nous là, au moment de l'interview, on est donc dans sur une terrasse entourée d'un beau jardin.
D'un très beau jardin.
D'un très beau jardin. C'est très calme. Le bâtiment est super beau, en belle pierre. C'est un bâtiment moderne. Et à l'intérieur, c'est très chouette aussi. C'est neuf, c'est confortable, c'est coloré. Il y a un salon télé en bas. Comment ça se passe une journée à la Bazoche, une journée classique?
Il n'y a pas vraiment de journée classique, hein, parce oui. que c'est vrai que ça se passe au rythme de chacun. Donc, mais bon, voilà, en gros, on a le premier qui arrive à 9h30 le matin. Donc très souvent, en fait, on commence par faire une pause en arrivant, c'est-à-dire boire un petit café avec les habitants. Mais voilà, c'est un moment, on se dit bonjour en fait. Hein, donc c'est le moment d'échanger et de
voir
si tout le monde va bien. On papote, voilà.
Pas de problème particulier.
Après, c'est un peu au rythme. Les habitants ont des activités, certains travaillent, certains ont des rendez-vous, comme n'importe qui. Donc voilà, il y a des allées et venues un petit peu toute la journée. Par contre, il y a le moment du repas où là, effectivement, quand le repas est le soir, en fin d'après-midi, il y a tout le monde qui commence à arriver, on prépare, donc là on se retrouve tous ensemble et tout le monde à table.
Parce que tout le monde prépare ensemble.
Non, c'est un groupe de deux résidents
qui prépare pour tout le monde.
Voilà.
Et ça tourne tous les jours ?
Ça tourne tous les jours. Après ça, on s'arrange. S'il y en a qui aiment beaucoup cuisiner, qui sont très bons, et ben s'ils se proposent de le faire trois fois, ben, quelqu'un qui aime moins fera autre chose, il passera l'éponge. Voilà, c'est des choses qui se
Tout le monde participe à l'entretien, à la cuisine et tout ça.
Le choix a été fait qu'il n'y ait pas de personnel d'entretien, pas de maîtresse de maison. On part du principe que les parties communes sont aussi l'habitat des personnes qui sont ici. Donc l'entretien est à leur charge. C'est pas très beau comme mot, mais c'est ça. Après, chacun selon ses capacités aussi, bien évidemment, hein, quelqu'un qui va avoir des difficultés motrices, on ne va pas lui demander de faire ce qui n'est pas possible. Donc,
Et toi, en tant qu'hôte, quel est ton travail ? Donc, par exemple, après la pause ?
Donc, tout de suite, quand j'arrive après ma pause, c'est beaucoup être là. Il y a une caricature dans le travail social. Souvent, on entend dire « Ah là là, les travailleurs sociaux, à part boire des cafés, fumer des clopes, vous ne faites rien. Mm-hmm. » C'est particulièrement vrai en pension de famille parce que, vu de l'extérieur, quelqu'un pourrait penser qu'on est là à rien faire. Mais parce qu'on est beaucoup là avec les habitants, donc en fait on fait pas rien parce qu'autour d'un café et d'une cigarette il se passe bien d'autres choses, on peut dire d'autres choses qu'enfermé dans un bureau en face à face, donc on est beaucoup avec les habitants, alors parfois juste à discuter dehors comme ça s'est fait là, mais on peut aussi sortir avec eux, faire des activités sur l'entretien aussi des parties communes, on peut aussi participer, on peut aussi, alors on a aussi des temps un petit peu plus administratifs où on va être dans le bureau, on a aussi des liens avec les partenaires qui interviennent autour des habitants, comme on est un petit peu les personnes privilégiées qui les connaissent bien, on est en lien étroit parce qu'on a parfois besoin de communiquer sur l'état de la personne, des inquiétudes s'il y en a, etc.
Tu disais les accompagner pour des activités à l'extérieur. Qu'est-ce que ça peut être, les activités à l'extérieur?
Ça peut être plein de choses, tout ce que n'importe qui peut faire. Hein, donc des sorties, de la culture, du sport, du faire les boutiques, faire ce que n'importe. Enfin, ouais, il n'y a pas de.
Et dans ce cas-là, tu vas avec eux?
Alors, pas tout le temps. Voilà, oui. Effectivement, ça peut être aussi s'ils ont envie. Ils ont peut-être pas toujours envie qu'on soit avec eux. Hein, puis ils ont le droit finalement. Mais c'est vrai qu'après, si on a un groupe un peu important, on accompagne. Mais c'est vrai, effectivement vraiment pas une obligation. S'il y a trois personnes qui ont envie d'aller visiter un musée, elles y vont et il n'y a pas besoin qu'on soit là, quoi. On n'est pas non plus dans la visée thérapeutique et éducative dans tout ça, quoi. Dans la culture notamment, moi je pense que faut aussi un peu qu'on laisse les gens être consommateurs de la culture et qu'on n'y voit pas forcément une visée thérapeutique ou éducative, parce que du coup je trouve que ça
on
fait un frein.
Perdre la notion de plaisir. Oui.
Ouais, et puis pour des personnes
c'est important quand même dans
qui ont déjà eu des suivis avec des visées thérapeutiques, etc. Là, retourner donc être dans la normalité, quoi, oui. le plus possible. Donc on est client, on est aussi consommateur.
Et toi, en tant qu'hôte, à quoi dois-tu être particulièrement attentive ici?
Je dirais la principale chose, c'est le bien-être des habitants.
Oui.
Voilà.
Quelles sont les choses qui peuvent faire qu'il y a une rupture dans le bon fonctionnement, dans l'harmonie, dans la bonne entente?
Le mal-être d'une personne peut avoir une répercussion sur le groupe, ça peut générer des conflits, c'est des choses qui peuvent arriver. Après, sur le quotidien, et notamment avec ce collectif qui est important, si on ne voit pas une personne au repas un soir, on ne va peut-être pas trop s'inquiéter. Si elle n'est pas là le lendemain, on va peut-être aller frapper chez lui. Si elle n'est pas là le surlendemain, là, on va vraiment se dire, c'est aussi un mode de veille, quelque part, aussi ce repas au-delà de, voilà, de la convivialité, etc. Ça nous permet, on sait qu'à ce moment-là, on doit voir tout le monde.
Dans les critères auxquels répondent les pensions de famille, j'ai noté plusieurs éléments. La pension de famille doit être chaleureuse et sécurisante. Et j'ai cru comprendre que c'est une notion importante de chaleureuse et sécurisante. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi c'est important par rapport aux personnes qui arrivent ici ?
Ça semble tellement évident, je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Peut-être poser la question aussi à un habitant. Sécurisant parce que de par leur parcours, les personnes ont pu avoir des problèmes de sécurité en appartement, des phénomènes de squat ou des abus, des choses comme ça. Donc le fait de se sentir en sécurité, là, notamment avec l'entrée, avec le portail, le badge, après c'est fermé à clé, là c'est sécurisé. Personne ne peut rentrer comme ça n'importe comment. Si jamais ça arrivait, il y a aussi l'astreinte qu'on peut solliciter.
Parce que la vie à la rue, pour des personnes qui viennent de la rue, par exemple, là, il y a une insécurité permanente.
Voilà, exactement. Donc là, c'est important de qu'il y ait cet effet cocon où, voilà, ici, on est dans un endroit sécurisé, tout simplement.
Et aussi par rapport à, j'imagine, à des menaces qui, pour nous, simples citoyens, qui ne vivons pas là-dedans en permanence, on n'en a pas forcément conscience, mais je sais que la Fondation Abbé Pierre, par exemple, organise, c'est les pics d'or, je crois.
Oui, les pics d'or. Oui.
Voilà, qui sont par rapport à ces, comment on appelle ça ?
Mobilier urbain, voilà. Aménagé pour ne pas s'allonger dessus, c'est à peu près ça, quoi.
Voilà, pour empêcher que les personnes qui vivent à la rue, qu'elles ne puissent pas s'allonger, s'asseoir à des endroits où elles pourraient se reposer. Donc en fait, la menace et l'agression est vraiment... permanente, y compris de la part de la société. On imagine que des personnes qui sont à la rue vont, on peut imaginer aisément, vont être agressées par d'autres qui sont en problème psychologique,
même l'environnement est agressif, drogue,
mais voilà. Mais finalement, même la société qu'on pourrait imaginer plus bienveillante envoie des messages agressifs.
Ouais, tout
même.
À fait. Ouais, ouais.
Donc à partir du moment où ils arrivent ici, j'imagine qu'il y a une forme de pause, quoi.
C'est ça, exactement. C'est typiquement, voilà, c'est des structures. Et encore une fois, avec cette notion de logement et dans laquelle il n'y a pas de durée, les gens peuvent se poser ici. On ne va pas leur dire, dans 6 mois, il faut atteindre tel objectif et partir. Non.
Ou partir le matin, comme j'ai lu dans certains témoignages, à telle heure, il faut être dehors, à 9 heures, il faut être dehors.
Dans les centres d'hébergement d'urgence,
Et on ne peut rentrer qu'à 18 ou 19 heures le soir. Là, et qu'est-ce qu'on fait entre les
exactement.
Deux
Là, les personnes peuvent vraiment se poser.
Et rester chez eux ou profiter du salon ou profiter du jardin.
Voilà, et d'où l'idée de... effectivement, dans la mesure où les gens sont appelés à vivre longtemps ici, voire faire toute leur vie ici... cet esprit de convivialité et de sécurité est important parce que un endroit qui n'est pas convivial où on se sent pas en sécurité, on n'a pas envie d'y rester. Donc il faut aussi que les gens s'y sentent bien pour y rester.
Offrir des repères aux habitants, j'ai vu aussi dans les choses qui sont communes aux pensions de famille. Donc qu'est-ce qu'on entend par offrir des repères ?
Alors il va y avoir des repères dans le rythme de la journée finalement. Il y a des personnes, notamment les personnes à la rue, mais enfin pas que, parce que parfois des gens qui vivent seuls, ils peuvent être aussi en perte de repères parce qu'il n'y a plus l'envie de faire des choses, ne serait-ce que manger, quand des fois on ne voit plus l'intérêt, donc on fait moins ou à n'importe quelle heure, comme bon voilà. Donc voilà, c'est structurer un peu aussi les journées avec ces repères-là. Après un repère humain finalement, avec le groupe en lui-même, et notre présence aussi. Je dirais, qui vient encore appuyer ce sentiment de sécurité et de bienveillance.
Réapprendre les gestes du quotidien.
Alors,
ça consiste en quoi ici ?
Alors, c'est un peu ce que je... ça fait un peu un mix de tout ce que j'ai dit finalement. Donc voilà, une journée qui est structurée. Nous, la préparation du repas, elle aide techniquement à reprendre des gestes si les gestes ont été perdus sur une préparation de repas. Comment on coupe un légume, comment est-ce qu'on le lave avant et comment...
On fait la vaisselle.
Comme ça. Comment on fait la vaisselle quand on fait le ménage, voilà. Des petits repères comme ça, mais pas que. Ça peut être aussi en termes de comportement. On est en groupe. Donc parfois, il y a besoin de réapprendre aussi des savoir-être.
Et justement, la gestion des conflits, parce que j'imagine qu'il y en a forcément, surtout quand les gens arrivent avec des backgrounds qui ont pu être justement douloureux et qui ont une insécurité psychologique et une réactivité qui peut être quelquefois un peu violente. Comment ça se passe, la gestion des conflits ? Est-ce que vous avez des...
Déjà, je pense qu'il y a moins... Les conflits n'interviennent pas au début. En fait, quand les gens arrivent, en général, en fait, ce qui se passe, c'est la même chose qui va se passer dans n'importe quel groupe, dans n'importe quelle famille ou couple, ou quand on part en vacances avec des amis.
Groupe d'humains.
C'est ça. Ça va être des petites choses du quotidien qui parfois peuvent agacer. C'est souvent ça, en fait. Une vaisselle qui traînait qui n'a pas été faite. Et c'est souvent ça qui revient.
Et dans ces cas-là, ça se passe comment? Vous organisez des discussions, du dialogue, du...
Alors, on a plusieurs outils, on va dire. On a une fois par semaine, on fait une réunion qui s'appelle le Conseil des habitants, où on organise la semaine, donc très concrètement, les tâches qui fait quoi, etc. Mais ça peut être aussi un lieu de parole où tout le groupe est là, donc ça permet de pouvoir parler à tout le monde et que tout le monde puisse s'exprimer, donner son avis. Après... quand même souvent, il y a une autorégulation du groupe, finalement. On a peu à intervenir parce qu'ils sont complètement en capacité de se dire « Tiens, t'as pas vidé le cendrier, ça se fait pas, c'est dégueu. » Voilà, donc ça va pas loin, c'est des choses qui s'autorégulent. Par contre, voilà, si ça monte un peu plus haut, nous on va intervenir et le réguler différemment. Si ça monte trop et qu'il y a un risque de violence ou de la violence, on va isoler le groupe, isoler la personne et travailler différemment.
D'accord.
Quoi.
Et il peut y avoir de l'aide ou de professionnels de santé, je pense, par rapport aux addictions ou à des problèmes de violence ou de... Est-ce que vous êtes complètement autogéré et vous vous débrouillez tout seul ou il y a des personnes qui peuvent venir soutenir ou qui sont appelées en...
On peut pas du tout gérer tout ça parce qu'on n'est pas du tout qualifié pour tout. Donc s'il y a d'autres choses à aller gérer, ça va être sur du droit commun. On n'a pas de personnel, on n'aurait pas, un psy qui viendrait en cas d'urgence. Non, c'est du droit commun. S'il se passe quelque chose de très grave et qu'il y a une grosse urgence, ce sera la police. Mais après, si les personnes sont suivies elles-mêmes, notre rôle, il va être là aussi dans la transmission auprès des équipes qui suivent la personne pour pouvoir aller aussi retravailler sur l'événement, pourquoi ça s'est passé comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus serein. Oui. Là-dessus, on travaille beaucoup en partenariat, quoi.
D'accord.
Mais on n'a rien de spécifique.
Je crois que l'une des particularités aussi, c'est que beaucoup de choses sont définies conjointement avec les résidents. Les modalités de la vie collective et le règlement intérieur. Donc, comment ça se passe? C'est défini une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine? Comment vous avez mis tout ça en place?
Alors, le règlement a été mis en place au début, quand la basoche a commencé. Oui. Mais après, il peut être questionné,
oui, c'est ça.
N'importe quand et au besoin, en fait. Oui. Donc, il évolue.
D'accord.
Donc, il n'y a pas de régularité. Ça peut être que ce soir, au Conseil des habitants, ils vont tous dire, maintenant, nous, il y a ça, ça nous convient moins. On propose de faire comme ça et on essaiera. Donc c'est déjà arrivé sur le rythme des repas, parce qu'avant on prenait les repas ensemble tous les soirs. Et alors, c'est parti de notre constat, mais on a demandé aux habitants évidemment ce qu'ils en pensaient, il y a eu un vote. Nous, on constatait que ces repas, ils perdaient un petit peu en chaleur, en convivialité. On se demandait si finalement cette routine ne faisait pas que les gens venaient manger parce que c'était comme ça et que c'était l'heure et sans plus trop en profiter. Donc on en a parlé avec les habitants qui ont partagé et on leur a proposé d'alterner, de faire un jour le midi, un jour le soir, un jour le midi, comme ça. Ils l'ont validé, donc on a fait un test sur un mois pour voir comment ça se passait. Oui. Et ça s'est bien passé, donc finalement là, pour l'instant, on garde ce fonctionnement. Peut-être que dans un mois, ça ne sera plus le cas, mais voilà.
Donc il y a une adaptabilité en permanence et un questionnement de vous remettez en question en fait.
On n'est pas...
Très ouvert. Pour essayer d'optimiser en permanence.
Tout à fait. Nous on vit pas là. On veut dire, quelque part, on est support un peu technique parce que on a des formations aussi qui font que, mais on vit pas là. Donc c'est les habitants les mieux placés pour dire ce qui colle moins, qu'est-ce qu'on pourra améliorer, qu'est-ce qui va bien aussi, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on change le règlement. Mais en tout cas, on est ouvert à ça. C'est des choses qui sont complètement possibles et qu'on encourage au maximum. Les habitants sont mobilisés souvent sur pas mal de choses. En fait, partout où ils peuvent s'exprimer, on les encourage à y aller.
Toi, au bout de 6 ans à plein ici et 10 ans, en fait, puisque tu étais au début de la basoche, quel bilan tu tires personnellement de cette expérience?
Je tire comme bilan que je ne pourrai plus jamais retravailler j'ai jamais travaillé vraiment dans des institutions comme ça, mais que j'aurais beaucoup de mal à travailler dans des institutions où c'est très très cadré, où il y a des objectifs effectivement, où on doit remplir des contrats avec les gens, d'engagement, je ne pourrais pas. Là, on a du temps pour l'accompagnement.
Et souvent, on justifie le fait de process qu'il faut appliquer, de cadre, de tout ça, parce que on justifie ça en disant que ça a été testé, approuvé, que ça fonctionne et que... Et donc, en quoi tu trouves que le fonctionnement ici... Pourquoi tu préfères, en fait, le fonctionnement ici? Qu'est-ce que tu trouves que... Où est le plus?
Parce que ça laisse une grande liberté et des choix, quoi, pour les habitants.
Et ça fonctionne mieux?
Bien sûr. Bah, en fait, on part juste du principe que les... Alors ça, c'est des discours, c'est des choses qu'on apprend en formation. Les personnes ont le potentiel en eux, on est là pour les aider à le trouver. Sauf que quand on met une barrière de temps en disant dans 6 mois, il faut que vous ayez trouvé votre potentiel pour plus avoir besoin de nous, bah, ça met la pression finalement. Et ça marche. Ça, je ne vais pas dire que ça ne marche pas. Heureusement quand même que ça marche. Mais en tout cas, nous, on n'a pas ça. Donc les personnes, elles peuvent prendre le temps d'aller essayer, d'aller tester, prendre le temps d'être sûres d'elles ou pas. Elles peuvent aussi se casser la gueule, mais ce n'est pas grave parce qu'elles ont aussi beaucoup de temps derrière si elles veulent. Et elles ne seront pas seules pour se relever en fait. Oui. Voilà. C'est une grande liberté, je dirais. Et pour nous, en tant que professionnels, mais et aussi, je pense, pour les habitants là-dessus. Enfin, vraiment, c'est...
Et toi, quel est tes plus grands motifs de satisfaction dans ce travail, dans ton travail ici? Quels sont les moments qui t'enthousiasment et lesquels tu te dis « je suis contente de faire ça ».
Quand j'ai l'impression de servir à rien, en fait. Si les habitants font quelque chose en totale autonomie, quand je les entends rire, qu'ils sont tout seuls et que je suis pas là, finalement, tu te dis ils ont pas besoin de moi, quoi. Ils sont entre eux, ils rigolent, ils font leur truc et ces moments-là, je les trouve très satisfaisants. Après, on a des temps forts, notamment quand on part en séjour où on ressent d'autant plus la cohésion du groupe
et
avec la Fondation Abbé Pierre, donc il y a il y a plusieurs séjours organisés sur l'année. Donc, il y a le festival C'est pas du luxe, qui est un festival autour de la culture. Alors, l'ancien festival qui s'appelait les Rencontres Nationales Sportives Solidaires, et qui s'appelle maintenant 7 à toi, qui a lieu à 7. Donc là, c'est une rencontre autour du sport. Et le festival Une Place à Table, que nous organisons avec la Fondation autour de la gastronomie. Donc, c'est vrai que quand on sort aussi de notre contexte de quotidien et quand on fait des choses le sport, il y a un petit côté compétition en plus, ça ressoude et ça crée d'autres moments. Et ça, c'est des moments très, très forts où on a pas la satisfaction de me dire « Tiens, je suis utile, tiens, ce que je fais, c'est bien », mais... de se dire je fais partie de tout ça et
ça donne envie
et je suis
de continuer.
Contente de faire partie de ça. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Bon, et pour terminer, pour les années qui viennent, comment tu vois ça dans la continuité de ce qui se fait déjà, ou est-ce que tu as vous avez des idées de projets d'évolution, de nouvelles choses à mettre en place?
Comme on a du temps, on se projette pas forcément aussi loin. Donc, on est dans une continuité. Mais s'il y a d'autres choses qui se présentent, on saura les saisir. Voilà.
D'accord. Il y a des activités artistiques aussi?
Oui. Ouais. Alors, il y en a, mais alors quand il y a le festival C'est pas du luxe, on le prépare en amont, donc là, on a en général du gros travail dessus. Ensuite, on va être sur de la visite de musée, etc. On n'a pas d'intervenant, donc c'est compliqué. Nous, on fait des petites choses, mais après, on arrive à nos limites parce qu'on n'est pas artiste. Mais le groupe est plutôt sensible à ça ils vont voir des concerts. Au niveau de la culture, ils sont assez... assez ouvert et sensibilisé.
Ok. Bon, Delphine, merci beaucoup.
Merci à toi.
Très bonne continuation.
Merci.
Donc, et puis, longue vie à la Bazoche.
Merci.
Merci beaucoup. Maintenant, je suis avec Sophie. Sophie, tu habites à la Bazoche.
Oui.
Je te remercie d'accepter de témoigner en tant que personne habitante de ce lieu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours?
Oui. Alors, donc moi, avant, j'habitais dans un appartement ordinaire. À savoir, c'était mon premier appartement, donc c'était dur au début. Je venais pas d'ici, je venais du Maine-et-Loire. Donc, tout était nouveau. Encore, j'avais un SAVS qui m'accompagnait. Donc, je sais pas si sinon ça va vous parler pas.
Non.
SAVS, donc c'est Service d'accompagnement à la vie sociale.
D'accord.
Donc c'est un éducateur en fait qui vient pour accompagner en fait dans les gestes de la... Enfin, dans la vie quotidienne. Ça peut être rechercher un docteur généraliste, aider dans les papiers administratifs, si on veut faire une carte vitale, enfin voilà, il est dans ces démarches-là aussi, quoi. Voilà. Après, eux aussi, ils faisaient des... ils proposaient des loisirs, en fait, enfin, des sorties. Je sais pas, une journée, par exemple, au château de... je sais plus, Chambord, enfin, par exemple, chose comme ça, quoi. Enfin...
Ça, c'était dans ton premier appartement.
Oui.
Parce que toi, tu avais souhaité être accompagnée par...
Oui, oui, j'ai fait une demande, en fait, par la MDPH. Donc, j'ai demandé ce service-là, en fait, SAVS, et donc voilà.
Pour être aidée, parce que tu craignais de vivre toute seule ?
Oui, pour être aidée dans... Bah, c'est une nouvelle vie, quoi, donc...
Avant, donc, tu voilà, étais quoi. Chez tes parents ?
J'étais en centre de post-cure. Alors, je sais pas si ça vous parle, en fait. J'étais à... en fait, c'est donc encore avant, j'étais en hôpital.
D'accord.
Et c'est l'hôpital qui m'a proposé cette structure-là. En fait, c'est pour se réadapter, quoi. Enfin, pour.
Ok.
Pour apprendre à vivre, quoi. Enfin.
Dans la société.
Ouais.
Sans repartir dans.
Ouais,
dans
c'est
ta
pour
vie d'avant.
C'est pour après, c'est après l'hôpital, c'était en hôpital psychiatrique, et donc c'est après pour voilà, pour avancer, ouais, pour un cheminement, quoi. Enfin.
Donc ça, c'était donc la partie dans un appartement où tu étais toute seule.
Mm.
Et de l'appartement à ici, c'est toi qui as souhaité venir ici?
Oui, c'est toujours par une éducatrice, en fait, qui, comme ça allait pas dans mon appart, donc elle m'a proposé cet endroit, j'ai visité, et donc j'ai fait une demande, un organisme, je sais plus.
Oui, ça allait pas parce que tu te sentais isolée ? Tu te sentais
ouais,
trop seule ?
Ouais, bon, pourtant j'avais des amis, mais... ouais, c'était, je me sentais seule quand même. Même si j'avais des amis à l'extérieur, d'être toute seule chez moi, je me sentais pas bien, quoi.
Et donc, tu avais envie de rejoindre une structure comme celle-ci ?
Oui.
Et donc là, ça fait 3 ans.
Oui.
Et alors, est-ce que tu as préféré, quand tu es arrivée, tu as préféré être dans un lieu avec d'autres personnes que d'être dans ton appartement ?
Oui. Mmh. C'est plus sécurisant, quoi. Oui, si ça va pas, par exemple, je peux parler aux autres. Enfin, je sais qu'il y a des gens à côté, quoi. Enfin,
oui.
Qui sont là si ça va pas, quoi.
Donc, tu as créé des liens avec des
oui,
personnes ici.
Avec d'autres résidents, oui.
D'accord. Mmh. Qui sont devenus des amis.
Oui. Mmh.
Donc vous pouvez faire des choses ensemble, ou manger ensemble, ou
oui,
partager des...
Ça peut être des... Enfin, un petit peu de jeux de société.
Mm-hmm.
Après, sinon, ce que j'aime bien aussi, c'est les sorties. Comme notamment, c'est pas du luxe, ou les sorties comme ça qu'on fait sur plusieurs jours. Et on avait fait une sortie aussi... je sais plus, en fait, moi j'ai pris l'avion, c'était la première fois que je prenais l'avion pour aller dans le sud, et c'était une bonne expérience, quoi.
Oui.
Ouais. Comme disait un peu Delphine, on peut vivre sa vie, faire sa vie, mais en même temps participer à la vie collective, quoi. Enfin, les séjours, les repas.
Oui, tu as ton autonomie, ton indépendance, ton intimité. Comme
oui.
Tu avais dans ton appartement,
oui,
mais
ça,
sans
ouais.
Le mauvais côté de d'être livré à toi-même et d'être vraiment isolé, quoi.
Mmh. Oui, c'est ça. Ouais.
Quand tu ressens la solitude, là, tu peux venir dans les endroits communs pour le repas ou ici, là, dans le jardin, où on prend un café, le lieu est sympathique, il y a des gens qui vont, qui viennent. Ça te fait du bien.
Oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Je me sens mieux, ouais.
Du coup, tu passes pas mal de temps, en fait, avec les autres. Par rapport à ce que tu vivais avant dans ton appartement ?
Oui, il y a une partie... oui, après, y a les lieux communs. Donc, déjà, il y a la préparation du repas. Donc,
vous êtes par deux.
Oui, on est par deux. Après, ça peut être des sorties à la Emmaüs. Là, par exemple, on va aller à Avignon fin septembre. Donc on prépare par rapport à un tableau de Bruegel. On refait en fait le tableau à peu près à l'identique. Enfin, les scènes, on les refait pareil en fait, quoi.
Vous les jouez, vous, tu veux
oui,
dire
c'est ça, oui, on vous, est acteur.
Vous mettez
oui.
à la place des personnages
oui, oui,
du tableau.
C'est ça,
vous
oui.
Vous recomposez le tableau.
Oui, ouais, c'est ça, ouais. Donc, avec les mêmes couleurs, voilà, on fait ça. On fait des choses comme ça, quoi.
Ok. Et maintenant, tu as d'autres envies? Tu as des projets ou tu as plus envie de vivre comme ça au jour le jour?
Oui, j'ai plutôt au jour le jour, ouais, j'ai pas de projet.
Mais ça te convient bien comme ça?
Oui.
Oui, ça te sécurise et tu es plus en...
Oui, le fait d'avoir des choses, comme disait Delphine, des choses structurantes, enfin les repas, j'ai
un rythme
un peu plus soutenu ouais, que oui. peut-être que j'avais chez moi avant. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est que moi, ça m'a permis de... Par exemple, on a fait des fêtes, un peu fêtes de la musique en fait, et on a fait c'était fêtes de quartier, il y a un comité de quartier en fait.
D'accord.
Il y a un comité de quartier, et donc du coup, c'est les Petites Bouches, ça s'appelle. Et donc avec eux, on a fait on a chanté une chanson, enfin il y avait un petit peu quelques habitants d'ici, et puis ceux qui sont au comité de quartier. Et donc ça m'a permis de rencontrer des personnes aussi sur l'extérieur, quoi.
Oui, créer des liens avec du voisinage en fait.
Hein,
c'est des gens qui habitent autour de la Basoche.
Oui.
Que vous pouvez recroiser après j'imagine dans la rue ou OK. Bon bah merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis bonne continuation.
Merci.
Merci à toi. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.